Vous écoutez
RMC.
RMC.
Oui, le touche, ouais. Il va être annulé le but de toute façon. L'arbitrage vidéo a des minutes entières pour le voir. Et donc, elle va sûrement.
Le but est validé.
Blessure de Saliba, Mosquera qui va être peut-être propulsé titulaire, blessure de Tinder, de Timber.
Tinder, c'est autre chose.
Ouais, non, mais c'est.
20h-22h, Génération After.
Simon Dutin.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes au bon endroit. Et RMC, le temple du foot à la radio. L'After est là tous les soirs de l'année, même en été. Et surtout à 4 jours de la reprise de la Ligue 1. Autour de moi, ce soir, pour vous accompagner durant ces 2 heures, Kevin Diaz, David Guzman. Bonsoir, messieurs.
Salut à tous.
Salut à tous. Bonsoir. Ils ont été réactifs au jingle. Dimanche soir, le lapsus. Boum.
Oui, ah bah écoute, il faut.
Samedi soir, c'est
ça. Attention, il y a des chasseurs en régie.
J'ai entendu un jingle avant-hier soir. J'ai pas cafeté au producteur. Je sais pas
si il faut, bien sûr. La délation est permise lorsque
renforce la nation. La délation renforce la nation.
C'était un jingle de Max Chano.
Bon voilà, attention, c'est le redoutable Paul Vecchio aux manettes ce soir.
Samedi soir.
Qui ne laisse rien passer.
Si pour moi, c'était un montage.
Polo.
C'était un montage.
Tu penses qu'il y a malhonnêteté en régie, c'est ça ?
Il y a eu bricolage ?
Surtout Paul, en plus, bien sûr.
Ah bah, avec Paul, il faut se méfier, évidemment, notre excellent et historique réalisateur. Au programme avec vous, messieurs, Thauvin mérite-t-il d'être rappelé en équipe de France ? Lui qui brille au sein d'une équipe de Lens qui est un modèle à suivre, c'est l'avis que tu développeras, Kevin. Le PSG a abandonné son trophée des champions, mais Luis Enrique s'est montré malgré tout satisfait après la rencontre. Êtes-vous d'accord avec l'entraîneur espagnol ? Lyon face à Fenerbahçe, c'est demain. L'OL peut-il le faire ? Êtes-vous confiant, supportrice, supporter lyonnais ? Max vous attend au 32-16. Rodri, tout proche du Barça, le Real et son recrutement XXL avec Mourinho de retour. La Liga est-elle redevenue le championnat le plus attractif ? Et puis Cristiano qui parle de retraite la même semaine que Messi. Le débat du GOAT, messieurs, est-il définitivement plié si l'on se fie à leur fin de carrière respective ? Voilà le programme. Vous ne bougez pas, l'After démarre tout de suite sur RMC.
Génération After.
On vous attend évidemment, nombreux et nombreux, au 32-16, sur le WhatsApp de RMC 06-12-424-424 et puis sur la chaîne, sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Vous en avez désormais l'habitude. Alors lui, il a été élu homme du match de ce trophée des champions, unique buteur lors de la victoire de Lens, dont il est désormais le capitaine. Il a été tout bonnement exceptionnel, hein, hier soir, tout au long des 75 minutes qu'il a passé sur le terrain. Tout ça sous les yeux de Zinedine Zidane, le nouveau sélectionneur des Bleus présent dans les tribunes de Bollard. Cette question pour vous, les gars, Thauvin, mérite-t-il d'être rappelé en équipe de France ? Qui veut y aller ?
Moi, je pense que oui. Après, ça dépendra du projet de jeu. On va attendre à la rentrée. Zinedine Zidane nous a dit qu'il allait un petit peu développer ce qu'il veut faire avec son équipe. Footballistiquement, Florian Thauvin, il a été rappelé, il avait été plutôt bon en plus. Donc pourquoi pas, moi j'ai aucun problème avec le fait de rappeler un joueur comme Florian Thauvin, même si tu pars sur quelque chose de nouveau. Après il faut quand même voir qu'en équipe de France il y a pas mal de jeunes joueurs et que le sélectionneur est là pour 4 ans. Est-ce qu'il va pas vouloir partir sur une nouvelle génération? Ça peut s'entendre aussi. Pour moi les deux options sont possibles. Si tu parles de la forme du moment, pour moi Thauvin aujourd'hui depuis 12 mois maintenant qu'il est arrivé au Racing Club de Lens, c'est un des meilleurs attaquants français, ça c'est clair. Après est-ce qu'il fait partie des 6-7 meilleurs joueurs français qui sont sélectionnés en équipe de France en fonction des complémentarités, ça peut être autre chose. Mais sur les performances en Ligue 1, Florian Thauvin, tout comme un certain Mathieu Udol, doivent être sélectionnés en équipe de France. Alors c'est certain.
C'est un je suis plus convaincu, même si Udol a brillé.
Je vais pas dire façon. Doivent pour Thauvin, mais pour Udol, il doit être convaincu.
Moi, je suis plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Kev. Moi, je suis beaucoup plus convaincu en fait par la pertinence d'appeler de façon urgente, d'ailleurs, Mathieu Udol.
D'accord. Mais on fera ça une autre fois, les gars.
Oui, tout à fait. Non, mais j'allais.
Vous avez votre avis sur Udol, mais moi, je vous interroge sur Thauvin.
Non, mais j'allais rebondir sur Thauvin. Thauvin, moi, ça me paraît compliqué dans la mesure où si on part du principe que Zinedine Zidane va rester avec son système préférentiel en 4-3-3. Même en 4-4-2 losange, je trouve qu'il y a énormément de joueurs, enfin en tout cas pas mal de joueurs qui sont devant Florian Thauvin.
Est-ce que Akliouche il est vraiment devant Thauvin?
Non, mais moi je mets même pas Marnès Akliouche. En fait, si tu joues en 4-3-3, de toute façon t'auras soit Désiré Doué
pour jouer au PSG.
Non, mais t'auras soit Désiré Doué, soit Michael Olysee à droite. Tu joueras forcément son numéro 10. Je pense qu'en numéro 10 ça va peut-être pas te plaire, Kevin, mais pour moi Ryan Cherki donne plus de garanties
avec Zidane
au très très haut niveau.
Mais plus de garanties que qui?
Que Florian Thauvin, au très très haut niveau, dans la mesure où Florian.
C'est pas du tout le même joueur.
Non, mais oui, mais il va ouais. Ils vont se challenger pour les mêmes postes.
Tu penses que Ryan Cherki va jouer dans la première liste titulaire avec Zidane en 10?
Non, titulaire, je te dis pas titulaire, mais je pense que Zidane est forcément sensible au profil créatif, et ce serait quand même surprenant d'omettre, même s'il n'est pas dans une forme resplendissante, le deuxième meilleur passeur de Première Ligue, le meilleur passeur d'Europa League l'année d'avant. Donc Florian Thauvin, dans le leadership, pourquoi pas ? Techniquement, je pense qu'il y a des joueurs devant lui, et même dans leadership, est-ce que cette équipe de France manque de leader technique, de leader de vestiaire ? Je suis pas non plus convaincu. Donc même si j'adore le joueur, je trouve que le propulser en équipe de France sur la durée, en tout cas, c'est un peu exagéré.
Florian Thauvin mérite-t-il d'être appelé en équipe de France ? C'est la question que j'ai posée à Kevin et David Glusman. 13 sélections seulement, hein, même s'il est champion du monde 2018. Deux buts, dont le dernier, c'était en octobre dernier, lorsqu'il avait été rappelé, souvenez-vous, par Didier Deschamps pour deux matchs de qualif. C'était contre l'Azerbaïdjan et l'Islande. Il remplaçait alors Barcola forfait. Bon, on rappelle quand même que c'est un pari réussi, son retour en Ligue 1.
Largement
réussi. Ça aurait pu être un fiasco. Joueur du mois de septembre et de novembre la saison dernière. Juste pour rappel, les joueurs estampillés attaquants qui étaient présents au Mondial. Bon, Kylian Mbappé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Michael Olise, Ryan Cherki, Marcus Thuram, Jean-Philippe Mateta et Magnès Akliouche. Est-ce qu'il n'y a pas une place là-dedans pour un Florian Thauvin qui a un profil quand même assez rare?
Pour David, il est milieu de terrain. Pour David, il est dans les numéros 10.
Bah non, mais dans les 3 devant. Si il joue, donc,
s'il est dans les 3 devant.
Il est dans les 3 devant.
Tu vas me dire qu'avec un Zidane, il peut pas passer devant Thuram, Akliouche.
Mais non, mais Thuram, c'est pas du tout le même poste, en fait, si tu veux.
C'est pas le même poste.
Non, mais à
si
mon sens,
tu pars du principe que Dembélé pourrait reprendre un poste de numéro 9 avec Kylian Mbappé, par exemple.
OK. Alors, tu veux que je te donne les 6?
Tu as moins besoin de Mateta ou de Thuram.
Si tu veux, je te donne les 6. Les 6 que je prendrais. Tu prends à gauche, tu prends Mbappé ou Barcola. Tu prends Dembélé ou un profil un profil pur avant-centre, Mateta ou Le Pol, et à gauche, t'as Olise et Doué, et ça y est, en fait, si tu veux, même Cherki.
À droite, tu veux dire.
À droite, pardon. Même Cherki, si tu prends pas cet attaquant, à Cliouche, pareil, ils sont laissés sur le côté. Donc, c'est vrai, peut-être une 8e, 9e option, ce qui est tout à fait honorable.
Ça s'entend.
Mais je suis désolé, les postes sont remplis.
Sur le profil, il n'y a pas une place à faire à. Un joueur qui rappelle quand même par certains côtés un Griezmann, un prime Griezmann, ce 9,5 capable à la fois de créer. Je comprends que David puisse être tenté de le mettre au milieu des meneurs de jeu, parce que on l'a vu, c'est quand il a le ballon dans les pieds, il se passe toujours quelque chose, il crée des choses, il peut dribbler, il peut passer, il peut finir les actions.
Non, moi je suis admiratif du retour de Thauvin
pour la Ligue 1.
Je suis admiratif ça c'est une question à poser, de sa transformation dans le leadership, mais je trouve que vraiment offensivement on a une armada qui est ultra complète avec des profils qui performent au plus au niveau que Florian Thauvin, et j'ai pas peur de dire que Florian Thauvin, je vais pas dire qu'il a la carte, mais je trouve que ses performances sont un peu magnifiées.
Ouais, t'as vu la rencontre hier quand même.
Hier, mais depuis un an et demi, il a vraiment une cote de sympathie qui dépasse un peu.
Mais il a été la chercher,
mais qui dépasse un peu ses performances sur le terrain. Moi, je l'ai vu en difficulté derrière, dans des matchs qui comptent, dans le derby, à Lille, à Marseille. Non, mais ce qui est complètement normal. Mais si tu veux, on parle quand même là du très très haut niveau de l'équipe nationale qui a peut-être l'armada offensive la plus impressionnante du monde. Donc ajouter Florian Thauvin.
Je suis pas d'accord avec ça, mais
bah vas-y, bah développe alors.
Moi je pense pas que forcément l'équipe de France a l'armada offensive la plus impressionnante du monde, dans le sens où on n'a pas vraiment d'avant-centre déjà pour commencer.
Pas trop mal en avant-centre.
Oui, mais c'est pas un vrai avant-centre.
Bah, attends, oui, mais
c'est plus un attaquant de côté qui est repositionné avant-centre.
Qui fonctionne très bien en avant-centre.
D'accord. Qui est repositionné.
Avec Mateta, on a un joueur qui met 15 buts en PL. C'est pas mal, quand même.
Oui, d'accord, mais c'est pas Harry Kane, quoi.
Non, bah, ok, d'accord. Mais donc, le deuxième attaquant
pour moi, c'est bien, quand même.
Oui, mais c'est plus ou moins les mêmes os que Mateta, si tu veux.
Moi, je pense que c'est
un peu au-dessus.
Je pense que c'est meilleur, quand même.
Oui, moi,
je pense que les Anglais, par exemple, ils ont une meilleure armada que nous, par exemple, offensivement. Je dis pas qu'on est cinquième. Mais pour moi, les Anglais,
Gordon, Saka, Madueke, Rashford, pour toi, c'est au-dessus de ce qu'on a.
Sachant qu'ils ont laissé Foden et un certain
Cole Palmer, parce qu'ils font des saisons absolument infâmes. Foden, ça fait deux saisons qu'il fait des saisons infâmes.
Bon, d'accord.
Alors, revenons sur l'équipe de France, aussi plaît, du monde. Les gars.
Donc, pour te dire que pour moi, je dis pas qu'il faut le sélectionner absolument, mais s'il est dans la première liste parce qu'il est performant en Ligue 1, je crois qu'il, je sais pas s'il y aura déjà eu la Ligue des Champions. Il y aura peut-être eu déjà un match de Ligue des Champions.
Un match de Ligue des Champions. Un match
le 8 septembre, la première
journée de Ligue des Champions. Ouais, donc il y aura déjà eu un match de Ligue des Champions. S'il est performant aussi en Ligue des Champions, je vois pas pourquoi. Après, bon, la liste elle tombera peut-être avant, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut faire partie de
la liste. Mais là, on parle à moyen terme ou on parle là, la prochaine liste? Parce que la question,
elle est là aussi. Moi, je parle de la prochaine liste.
Moi, je vous parle de la prochaine liste.
Je ne parle pas de
non, 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 bien sûr.
Encore une fois, on rappelle que Zinedine Zidane, tout nouveau sélectionneur des Bleus, avait tenu à assister à ce trophée des champions hier à Bollard. Alors, il n'est pas venu uniquement pour Florian Thauvin, mais Florian Thauvin, unique buteur, joueur du match. Il a brillé.
On est d'accord sur le joueur du match?
Bon.
On en parlera peut-être après. Moi, je suis pas vraiment d'accord.
Le défenseur, c'est fort. Gagnou.
D'accord, oui.
Gagnou, c'est fort.
Ouais, Gagnou, c'est très, très
Gagnou
fort.
Gagnou a été exceptionnel, mais enfin.
Non, non, mais il a été bon. Il a été bon, en fait, si tu veux. Mais,
ouais,
mais
on c'est, ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'inscrire aussi dans la logique de ce qu'on connaît. On sait comment les joueurs de match sont désignés. Quand t'es buteur,
oui,
t'as quand même.
Oui, j'entends, mais on peut.
Ce que je veux dire, c'est qu'on, de ce qu'on a connu de Zidane joueur et ce qu'on croit connaître de lui entraîneur, il n'est pas interdit de penser qu'il a apprécié la performance de Florian Thauvin.
Oui, mais si on parle un petit peu de Zinedine Zidane, pourquoi aussi il pourrait ou pas sélectionner un Florian Thauvin ou un Ryan Cherki, il faut quand même pas oublier que Zinedine Zidane il faisait pas jouer Rames Rodriguez. Et donc Rames Rodriguez, c'est aussi un Florian Thauvin.
Ouais,
c'est
aussi un Isco, pour le coup.
Oui, c'est aussi. Oui, mais Rames Rodriguez, c'est vraiment le pur 10 à l'ancienne. Pas très rapide, pas très présent, voire jamais présent. Pas jamais présent défensivement, mais ah oui, il a un pied gauche. Il est soyeux, il est beau à avoir joué.
Thauvin donc était exceptionnel défensivement hier.
Oui, mais par exemple tu parlais de Cherki. Cherki défensivement c'est pas son truc. Donc je pense que c'est pas forcément parce que c'est Zidane qui fera jouer des numéros 10 ou qui prendra des Thauvin ou des joueurs forcément créatifs.
Bon, en tout cas, on va poser la
même
question.
Même si dans son équipe, il avait des Kroos et des Modric qui étaient, eux, très créatifs.
Oui, et David le rappelait, il a gagné une des trois Ligues des Champions avec un Isco en pointe de ce losange.
Exactement.
Et, Isco qui avait été absolument merveilleux dans ce rôle de numéro 10 tout au long de la saison. On va poser la question à Kevin, qui a fait le 32-16 qu'on accueille dans l'after. Salut Kevin.
Salut l'équipe, comment ça va? Salut
Kevin. Nous, ça va toujours bien, et toi, ça va?
Bah écoute, ça va, après la victoire de Lens hier, donc oui.
Ah, supporter lensois, évidemment, donc un avis pas forcément objectif pour toi, la performance de Thauvin et ce qu'il a accompli la saison dernière, puisqu'on le rappelait, hein, Didier Deschamps l'avait quand même rappelé pour combler le forfait de Bradley Barcola à l'époque, en octobre 2025. Tu penses que Thauvin mérite d'être rappelé en équipe de France?
Bah, tout objectivement, en étant supporter lensois, oui, parce que franchement, quand on voit le match qu'il a fait hier, il était juste énorme. Et je pense qu'il a sa place, pas en titulaire, tu vois, mais en tant que remplaçant, ou même joker en fin de match, ou un truc comme ça.
Bah ouais, mais en fait, moi Kevin, j'entends ce que tu me dis. Oui, il mériterait, mais t'enlèves qui? Des 6 qu'on a cités, parce que je suppose que t'écoutais l'émission. Qui t'enlève? Allez, même 7. Ah bah Barcola, il a enfin déjà c'est pas le même poste du tout. Barcola, non, il joue de l'autre côté.
Barcola, il amène beaucoup de profondeur,
et
il peut pas l'enlever.
D'une, et il va être certainement devenir leader offensif d'une des équipes principales de première ligue.
Ouais.
Le seul moyen que Barcola soit pas appelé, bah non, mais sur le prix, ça va être attendu qu'il soit leader offensif. On est d'accord.
Oui.
Voilà.
Bah, c'est pas la première fois qu'ils vont débourser de l'argent.
Ah, mais ça, on est complètement d'accord. Mais
et que finalement, le gars, c'est pas forcément leader.
Oui, mais quand t'arrives.
Comme Darwin Núñez ou comme certains.
Mais on est complètement d'accord. Mais quand t'arrives avec un transfert à ces sommes-là, on attend énormément de toi.
Mais
forcément.
Ce sera peut-être
surtout que les gens vont faire la fausse comparaison avec Salah, alors que c'est pas du tout le même profil, le même côté. Tu connais le poids qui va être sur ses épaules.
C'est dire qu'il va être forcément leader offensif. Ah, il va être acheté très cher.
On va attendre de lui qu'il le soit.
On verra.
On rappelle qu'un Ekitike aurait pu figurer à la Coupe du Monde s'il s'était pas gravement blessé.
Aujourd'hui, il est encore de retour.
Donc, non, mais je veux dire, bon, il peut compter dans la liste des joueurs
évidemment
à écarter. Mais lorsque.
Mais Kevin, t'enlèves qui donc?
Lorsqu'on se souvient de la façon de jouer d'un Karim Benzema.
Mais Kevin, il s'en fiche, il met Thauvin.
Voilà. Oui, alors, Kevin, il n'est pas
évidemment top comme
très objectif. Mais moi, je comprends cet enthousiasme. Et encore une fois, on sait que Zidane, il mettait Benzema, qui était un œuf très joueur, il n'est pas interdit de penser que je sais pas, il pourra peut-être essayer Dembélé à une autre place. Enfin, je veux dire, enlever peut-être un Marcus Thuram ou un Mateta de sa prochaine liste pour place à un créateur. Merci beaucoup Kevin d'avoir fait le 32-16 et à bientôt dans l'after. On accueille Alexandre qui veut nous donner son avis également sur Thauvin. Salut Alexandre.
Bonsoir.
Salut Alexandre.
Salut Alexandre.
Enjoué Alexandre.
Oui, il a l'air ravi Alexandre, évidemment, mais on l'entend souvent.
On a gagné face à Bourg-en-Bresse, alors ça va.
Ah bon, et oui. auditeur fidèle de, oui, supporter de Valenciennes, on le connaît, Alexandre. Exactement, sur l'antenne de RMC.
Ah bah oui, bah bien sûr, Alexandre, on s'est même rencontré lors de la croisière.
Chez l'ami Cazar, évidemment, il était présent, on l'a vu. Ton avis sur Thauvin en équipe de France, c'est oui, c'est non?
C'est non pour trois raisons. Un, manque de polyvalence. Deux, même si on a vu le contraire hier, généralement, dans les gros matchs, Thauvin, il disparaît. Et troisièmement, il est assez âgé quand même.
Allez, Alexandre, alors je vais me faire l'avocat du diable et je vais jouer je vais changer de robe et je vais aller contre ce que j'ai dit. Thauvin, dans les gros matchs, il est pas très présent. Je te laisse te remémorer le Thauvin lors du parcours en Coupe de France du RC Lens et notamment la finale qui, alors c'est seulement Nice 25-26, mais il a quand même porté son équipe jusqu'au Stade de France et jusqu'à la victoire.
C'est l'exception, c'est pas la règle.
Je sais pas. Enfin, t'as des matchs essentiels.
De toute façon, Thauvin, il a 33 ans. On attendait à ce qu'il soit bon face aux gros, plus jeune, notamment face à l'Atlético de Madrid.
Ouais, mais non, on parle maintenant. Là, c'est la prochaine liste, Alexandre.
Non, je sais bien, mais de toute façon, quand Zidane a pris la place de Deschamps, on s'attendait à ce qu'il renouvelle un petit peu les listes. C'est pas pour faire du réchauffé.
Ah, je sais pas. Je suis pas sûr en fait qu'il y ait un si profond renouvellement de dans la liste de Zidane. Je pense que ça peut être à la marge.
Moi je pense qu'il peut y avoir quand même 3-4 surprises.
Oui mais 3-4 sur une liste de 23, c'est pas
forcément les mecs qui font demi-finale de Coupe du Monde, tu vas pas juste les mettre à la baille.
Justement, chacun a donné son avis. Tu vois pas un joueur qui pourrait sortir de la liste des mondialistes, par exemple, au profit d'un.
J'en vois pas.
Un profil comme Thauvin, Alexandre.
Qui pourrait sortir?
Ah, de la liste des mondialistes.
J'en vois. Les qualifications de l'Euro face à des équipes en carton pâte.
Voilà, c'est pas les qualifications de l'Euro, c'est pour la Ligue des Nations contre l'Italie.
C'est en Turquie, je crois, le premier match, ouais.
Bon. C'est pas un peu risqué de lancer Thauvin face à l'Italie, même si c'est une Italie encore moribonde, mais.
Bon, après, oui, en même temps, pourquoi risquer? Parce qu'il n'est pas assez fort pour affronter une aussi grosse équipe. Je comprends pas bien le.
En plus, avec le Dinès, ça s'est plutôt pas trop mal passé, même contre les gros, en fait. Donc, je pense qu'au contraire.
Après, tu as dit qu'il n'était pas polyvalent. Je suis pas d'accord.
Non, moi, je suis pas d'accord non plus.
Il peut jouer à deux ou trois postes. Bon, allez, au moins à deux, c'est sûr. Au moins à droite et au moins en 10.
Il y a des joueurs dans notre armada offensive qui peuvent jouer à plus de postes que ça.
Ah ouais, voilà, enfin, moi je trouve qu'il est plus polyvalent qu'un Mateta justement, par exemple, qu'un Marcus Thuram qu'on a souvent exilé sur l'aile, mais qui pour moi est un vrai neuf.
Je pensais pas à Jean-Philippe Mateta.
Bon, voilà. Écoute, merci beaucoup Alexandre d'être venu nous donner ton avis. On aura la réponse lors de la première liste de Zidane, mais bon, on est convaincu quand même qu'il a apprécié la prestation de Florent Thauvin. Vous êtes nombreux à réagir sur le WhatsApp de RMC 06 12 424 424. Eric qui nous dit bonsoir, vous venez de me faire ma soirée, Thauvin en bleu, mort de rire, vous avez vu le niveau technique et de vitesse des joueurs devant lui, s'il était au PSG il serait toute l'année sur le banc, point. Voilà, c'est l'avis de c'est l'avis de Eric, et Nicolas nous dit, il a gagné quoi au haut niveau en 3 ans Thauvin, et il a quel âge, c'est vraiment l'avenir, 3 points.
Ouais, je suis d'accord, mais après gagner une Coupe de France,
il a gagné quoi au niveau, c'est pour le coup là,
il
c'est
est pas, champion
sur
du monde.
Les 3 dernières années, c'est pas là où il faut, le mec, non. Il était capitaine d'Udinese qui est quand même un club sympa de Serie A, il s'est relancé à Lens, il est qualifié en Ligue des Champions de
deuxième
classement,
il gagne la Coupe de France,
le trophée des champions,
pas mal.
Pour le coup là, l'auditeur, faut pas qu'il nous appelle parce que il va être
aussi, il faut qu'il nous.
Il aurait pu venir échanger directement.
C'est marrant parce que Thauvin, il a un côté clivant. Il a un côté clivant.
Je pense qu'il y a
énormément de gens. Toi, tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien et tout, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas du tout aussi.
En fait, il y a beaucoup de gens, je pense,
sincèrement que.
Non, il y a.
Peut-être un peu d'arrogance quand il était jeune.
Historiquement,
Lillois a été pris pour
un mec. Lillois ne l'aime pas. Les Lillois, ils ne l'aiment pas.
Mais historiquement, il y a le transfert à Lille. Voilà, c'est ça. Il y a le transfert à Lille, Faubon. À Marseille, il y a beaucoup de gens qui ont encore en mémoire cette espèce de bagarre avec Payet, en fait. Donc, c'était soit Payetiste, soit Thauvinois. Et ensuite, je pense qu'on l'a perdu de vue. Après, je trouve que la sympathie dont il bénéficie est complètement justifiée. Et peut-être aussi un chouïa démesuré dans la mesure où avant, pas la haine, mais oui, l'aversion que pouvait susciter Thauvin était démesurée.
Non, mais après, il y a eu aussi son discours, je crois que c'était à Téléfoot, non, où quand il avait parlé aussi des difficultés qu'il a eues aussi hors du terrain sur l'aspect psychologique d'un footballeur de niveau. Moi, je trouve ça aussi très bien de ne pas hésiter à en parler. Il a rebondi on dit, en Italie, à l'Udinese, dans un club historique.
Un choix audacieux, en plus.
Voilà, un choix quand même intéressant. Et là, tu reviens à Lens avec la petite histoire. Ah, vous avez tous cru que j'étais cramé. Bah, je vais vous montrer. Moi, j'aime bien.
Moi aussi, mais moi, j'adore.
J'aime bien ce côté un peu manga. Je reviens de nulle part.
Non, mais surtout, moi, j'adore, en fait, l'homme hyper mature.
À Lens.
Non, mais j'adore l'homme hyper mature, le leader.
La ref. S'entraîner dans les vagues.
Oui, bien sûr. Mark Landers.
Voilà.
Oui. On est de la même génération, en fait.
Kojiro Yuga pour aller.
Le grand rival d'Olivier Hatton. Évidemment, vous n'avez pas convaincu Nicolas, hein, donc voilà, pour lui, capitaine de l'Udinese, c'est pas un accomplissement. Et,
la Coupe de France, c'est pas un accomplissement. Voilà. Deuxième match.
Non, Nicolas nous dit qu'il n'a fait qu'un match contre le PSG, puis que hier, c'était un PSG qui jouait en marchant 4 jours après.
Oulala, on va pas être d'accord.
Paris n'est jamais prêt en début de saison, nous dit Nicolas. Voilà, bah, on est là pour échanger, hein, c'est le principe de l'émission, et même lorsqu'on n'est pas d'accord, on relaie vos réactions à l'antenne. Tenez, on parlera du Paris Saint-Germain dans quelques instants avant 21h, puisque Luis Enrique était satisfait malgré la défaite après la rencontre. Info RMC Sport, c'est ce soir, Ibrahim Mbaye, qui n'était pas sur la feuille hier, serait d'accord avec les Reds de Liverpool. Un accord entre le joueur et le club, pas encore entre les deux clubs. Reste à trouver un terrain d'entente entre Liverpool et Paris. Liverpool qui pourrait faire une offre groupée, en effet, pour un Bradley Barcola, qui lui aussi était en tribune hier et qui est convoité, on le sait, par le club de Liverpool. David Guzman, Kevin Diaz qui vous accompagne jusqu'à 22h. Génération After revient dans quelques instants. On va continuer à parler du RC Lens, dont Florian Thauvin est le capitaine. Mais il n'y a pas que ça qui marche dans le club nordiste. Kevin a envie d'en parler. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Simon Dutin.
Entouré ce soir de Kevin Diaz et David Guzman qui vous accompagnent jusqu'à 22h avant l'after. Ce sera avec Karine Galli. On continue de se retourner sur ce trophée des champions hier et la victoire de Lens qui s'est imposée, vous l'avez suivi sur l'antenne, sur sa pelouse de Bollard, 1-0 face au Paris Saint-Germain. Alors ce succès valide forcément la belle saison dernière, hein, vainqueur de la Coupe de France et deuxième du championnat. Et puis le travail quand même effectué depuis plusieurs saisons. Lens, modèle à suivre, c'est David Kevin Diaz.
Pour meilleur jeu. Ah, pour meilleur jeu, en dessous d'une épaule. Là, je pense que tu peux faire confiance à mon Hawkeye. Et l'épaule, elle est en effet en avant.
Le but va être accordé. 2 pour le Toulouse Bleu.
Encore une fois, bien sûr, c'est un montage.
On s'en lassera jamais.
Est-ce que Paul a une preuve que c'est pas un montage?
Non, mais Paul n'a pas besoin de preuve.
Moi, ma version, c'est que c'est un montage.
Ah voilà. Bon.
C'est ma version.
Je suis pas étonné que ce soit ta version.
Jusqu'à preuve du contraire, voilà, c'est un montage.
Non, c'est
t'es présumé
innocent.
Maxime Abolin, notre producteur, me dit que Paul va lui retrouver la version longue sans montage.
Bah, qu'il le fasse.
Bon. Ça va faire mal. Alors d'ici là, le Racing Club de Lens, modèle à suivre, hein, pour toi, Kevin.
Ouais, pour moi, le Racing Club de Lens, c'est un modèle à suivre parce que j'en parlais hier quand il y a eu pas mal de caméras là la caméra a pas mal été sur la direction de Lens, donc le directeur général. Le directeur sportif Jean-Louis Leca et le président Gourlian. Et moi, je trouve que ce club, depuis qu'il est remonté en Ligue 1, et on se rappelle un petit peu, hein, pour le coup, ça a été grâce au Covid aussi, parce que ils sont repassés dans la zone de promotion juste au bon moment. Et finalement, Francaise a été maintenu à l'époque par Ghisolfi et par cette direction. Et depuis, bah, en fait, on voit que dans un club français qui fonctionne, malgré les problèmes financiers, malgré le trou au niveau des droits télé par rapport à ce qu'il connaissait il y a encore quelques années, et ben quand il y a de la stabilité, de la cohérence et de l'intelligence dans le choix des hommes, que ce soit Gourlian qui a fait d'abord le choix de Ghisolfi, puis maintenant le choix de Jean-Louis Leca qui était à l'époque troisième gardien et qui est passé au bout deuxième mais qui était gardien au club, qui est passé ensuite directeur sportif, avec d'abord Francaise, avec un choix dans la continuité avec Will Steel, puis là avec Pierre Sage et maintenant avec Top Moller que moi je découvre. En fait, tu vois que quand un club a un gouvernail qui sait garder le cap, et donc une gouvernance qui sait garder le cap, eh ben ça aide sur le terrain à avoir des résultats. Il y a aussi sûrement une très bonne cellule de recrutement. Il y a eu quelques erreurs, bien sûr, comme dans tous les clubs. Mais à partir du moment où tu fais les bons choix, et quand tu ne fais pas les bons choix, tu rectifies très vite. Hein. Il y a eu des directions sportives qui n'ont pas été bonnes à Lens, mais qui ont été très vite rectifiées. Eh bien, aujourd'hui, tu vois que quand ça marche bien dans les bureaux, ça va bien sur le terrain, il y a de la cohérence. Oui, ils doivent aussi, comme d'autres, vendre leurs meilleurs joueurs, mais ils arrivent à les remplacer. Et surtout, ce qui est très, très fort, c'est l'identité du club. avec ce club, avec ses supporters. Nous, on a fait encore quand, avec Génération After, on avait fait donc la nouvelle voie de l'After à Lens. Tu rencontres les gens et tu vois que c'est un club qui est particulier. C'est un club qui a une histoire, qui a une identité avec ce maillot, les mines, même la décoration dans les vestiaires avec couleur charbon. Même tu sais, c'est vraiment imitation charbon touché, etc. Et tu vois que les valeurs de travail, d'abnégation, ils se sont trompés par exemple avec Iliwahi, mais ils ont très vite rectifié. Voilà, et c'est ça que moi j'aime. Dans le foot, comme dans la vie, tu peux te tromper, mais quand tu travailles bien et quand tu as une ligne directrice, en général, tu arrives toujours à choisir les bonnes personnes et à avancer.
Mais c'est pour ça que dans ma petite introduction, je disais, il y a la saison dernière, non, mais certes, mais il y a quand même voilà, le process depuis plusieurs saisons, et tu l'as dit, parce que Iliwahi, c'est quand même l'exemple qui avait mis en exergue peut-être une certaine folie des grandeurs, parce que ils sont deuxième de Ligue 1 la saison dernière, mais ils étaient deuxième de Ligue 1 en 2022-2023 avec Francaise, et la saison d'après, il y a Ligue des Champions, et en effet, il y a eu quelques investissements malheureux, notamment sur Iliwahi, qui a eu un effet de loupe, et qui avait été payé très très cher.
Très bien vendu.
ils s'en sont bien sortis, mais ça s'est suivi par voilà cette qualif en Ligue des Champions, une 7e, une 8e place les saisons suivantes. On a en effet appris des erreurs et désormais je parle sous ton contrôle David, mais il y a un plafond pour les dépenses des joueurs. Mm-hmm. On ne surpaye plus.
C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont même. Parce que c'est ça aussi, et même pour Liverpool que David connaît très bien aussi. Tu sais, moi quand je commentais les Liverpool sur RMC Sport, je disais attention, il y avait Salah, Firmino, Mané. Attention à ne pas les faire faire les années de trop. Donc ils ont réussi à pas le faire avec Mané, mais ils l'ont fait par exemple avec Salah. Et ça s'est avéré être l'année de trop.
Avec Van Dijk aussi un peu.
Oui, avec Van Dijk aussi, mais Van Dijk c'est défenseur central, c'est capitaine, c'est un peu différent. Mais à Lens, le fait de pas garder Thomasson, par exemple, qui est un excellent joueur, un très bon gars, mais si à un moment
Saïd, Malangsar,
ça passe pas dans les finances, malheureusement, le club.
Heureusement.
Oui, non, mais quand même malheureusement, parce que si tu peux les garder sportivement, c'est quand même bien.
Heureusement.
Ça aurait été bien. Quoi. Moi, je pense que ça aurait été bien quand même d'en garder au moins un ou deux sur les trois.
Sur le projet Lensois, dans sa globalité.
Le projet Lensois dans sa globalité.
Au niveau du recrutement, notamment, on en parlait hors antenne. On parlait du pli Titraoui. Tu me disais que voilà, il vient pour remplacer Sangaré.
Il vient pour remplacer Sangaré.
C'est vrai. En termes de data, c'est deux copies conformes.
Il correspond exactement ou énormément à ce que Mamadou Sangaré a porté. Mais moi, je vais complémenter l'avis de Kevin. C'est-à-dire que Joseph Ogourlian fait ce que Franck McCourt aurait rêvé de faire à l'OM. C'est-à-dire que qui est le RC Lens aujourd'hui ? C'est un club qui gagne des trophées, c'est un club qui est performant sportivement, qui est performant financièrement et qui est performant politiquement et sur le point de vue, sur le plan des institutions. Qui est le principal opposant, à l'heure où nous parlons, le principal adversaire sportif du PSG, c'est Lens. Qui est le principal opposant politique à Nasser El Khelaifi, c'est Joseph Ogourlian. Qui a pris la tête de la fronde à la Ligue, c'est le RC Lens. Le RC Lens, sur tous les plans, c'est un exemple. C'est un exemple aussi pour Franck McCourt de correction. On se souvient l'été de toutes les folies. Après la qualification en Ligue des Champions, il y avait CVC, il y avait la manne de la Ligue des Champions qu'on a peut-être cru éternelle. Il y a eu un virage, mais à 180 degrés, sans altérer les performances sportives. On se souvient des ventes de Kouchanov, des ventes de Danso. Il y a un hiver où Lens était le plus gros vendeur européen.
Samba aussi.
Brice Samba, c'est Kofofana. Donc, en fait, moi, si j'étais Franck McCourt, je me dirais, mais regardez ce que Joseph Ogourlian a réussi en investissant, bon an, mal an, 80 millions d'euros. Franck McCourt a investi plus de 700 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a investi.
C'est pas le même environnement.
Il y en a un qui a investi.
C'est pas la même exposition.
Mais il y en a un qui a investi quasiment 10 fois moins et qui a stabilisé son club, qui a restructuré son club, dont son club est un exemple de vertu et qui est écouté et regardé, même sur le plan institutionnel, est un autre qui, pour l'instant, à part sur le plan commercial, bien évidemment, et sur le plan de l'image de marque, est à la traîne ou encore ce travail de restructuration à faire sur tous les sujets.
C'est certain. Après, ce que tu disais, pour en revenir à disons, la petite bataille en interne à la Ligue avec Nasser, entre Nasser et Joseph Ouguerlian, c'est quand même particulier que hier, il n'y avait ni le président du Paris Saint-Germain, ni le président de la Ligue de football.
On s'en est étonné à l'antenne, Daniel,
c'est
notamment, l'a souligné.
C'est incroyable.
Pour un trophée organisé par la Ligue, c'est quand même
incroyable.
Alors, Nasser Al-Khelaifi, je peux comprendre qu'il soit un peu irrité par le faible nombre de places dévolues à ces
autre chose,
oui, mais Vincent Labrune était, si je ne me trompe pas, il était à Salzbourg pour la Super Coupe d'Europe. Donc en fait, être présent.
Il était à Salzbourg, il n'est pas venu à Lens.
Si je ne me trompe pas, ce serait bien en fait qu'on ait une
vérification.
Mais je pense l'avoir vu à Salzbourg et ne pas être présent lors d'une des compétitions les plus. Une création même de la Ligue. Bon. C'est un peu surprenant.
En tout cas, sur le modèle lensois, on va demander son avis à un supporter. Des 100 heures, Reynald qui a fait le 32-16. Salut Reynald.
Ouais, bonsoir à tous. Vous
bienvenue
bien
dans l'after, ça va toujours, tu sais, quand on est dans l'after. Ton avis sur. J'imagine que tu es a priori d'accord avec l'avis qu'a développé Kevin et David a renchéri, a complémenté.
Ouais, mais totalement. Je crois que M. Ouguerlian, il fait un boulot de malade. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même l'épisode Ligue des Champions, Arnaud Pouille, il y a quand même eu un sacré boulot à faire après, parce que tu as quand même l'année Will Steel où ça a été un sacré bordel quand même. Et là, franchement, entre le show de Pierre Sage et là, Top Moller, je trouve ça fantastique. Quoi. Honnêtement, les recrues, bon, il y a des recrues qui passent en travers comme dans chaque club, mais c'est vrai que quand tu investis des Sangaré et que tu arrives à revendre derrière, ben, le modèle, il est top, parce qu'il n'y a plus de droits de football. Donc c'est vrai que ton club, il existe. Aller acheter puis revendre, ce qui n'est pas toujours facile à entendre pour les supporters, parce qu'au final tu t'attaches à un joueur et l'année suivante il part, mais c'est ce qui fait, c'est ce qui rend ton club compétitif. Et puis je pense que les gens, Lens, ça reste un petit club familial et que les gens ils aiment bien ce genre de club. Et hier honnêtement c'était très bien parce que tu rencontres le Grand Paris, même si le PSG, je pense qu'en première mi-temps, ils auraient pu marquer au moins 4-5 fois. Mais au final, tu arrives à les battre. Donc l'histoire est très belle, mais M. Ouguerlian, le boulot qu'il fait, c'est énorme. Effectivement, sur des joueurs qui partent, c'est toujours un petit peu chiant. Mais au final, ouais, si tu veux rester sur la ligne de conduite, tu peux pas donner des gros salaires à des joueurs. Donc préférable qu'ils partent et puis de remiser sur des trouvailles et puis relancer des joueurs comme Saint-Maximin l'année dernière. Et puis au final, pour l'instant, la sauce, elle marche. Hein. Après, la saison, elle est longue, mais pour l'instant, ça marche.
C'est ça, Reynald. Tu fais bien de le souligner parce qu'il y a le scouting, c'est-à-dire identifier les joueurs à fort potentiel. Alors
il y a le stade aussi, Simon.
Ça passe un petit peu sous les radars, évidemment. Ça, c'est...
Non, mais il est propriétaire du stade. C'est un des seuls qui a réussi à être propriétaire de son stade, à faire rentrer un fonds souverain de la région Hauts-de-France à son capital. Enfin, c'est quand même admirable.
Un fonds souverain de la région Hauts-de-France.
Bah, en fait, si tu veux, c'est une espèce de fonds public privé, notamment la famille Mullier. C'est un fonds public et rentré au capital, en fait, je crois qu'ils ont pris un peu plus de 10% du RC Lens. Donc, tout le monde cherche un actionnaire minoritaire. Lui, il en a trouvé un. Donc,
et en plus, c'est un gars de la région, enfin, un groupe de la région.
Oui, alors après, ça peut aussi créer certaines jalousies auprès d'autres clubs, en fait, de la région Hauts-de-France.
Mais si je dis pas de bêtises, t'as Auchan sur le maillot de Lens et t'as Boulanger sur le maillot de Lille. Donc, je crois que c'est le même groupe, non? Si je dis pas de bêtises, c'est le même groupe.
Non, Boulanger?
Boulanger et Auchan, c'est le même groupe. Pour moi, c'est le même groupe.
Oui. Le projet, tout de même, il va quand même être sacrément éprouvé par justement ce nouveau challenge. Exister en Ligue des Champions, continuer à performer en Ligue 1, ne pas justement rééditer.
Moi, Kevin n'était pas d'accord, mais moi, je les vois top 4. Hein. On m'a rionné il y a 10 jours.
Non, tu les vois pas top 4, tu les vois,
moi, je
top,
les vois
3.
Top 4. Top 4, voilà. Top 3. Il est déjà en train de changer
top 3. Top 3 et pas 3e, tu les vois.
Ok, l'exagération. Non, mais je suis content d'avoir rallié Kevin à ma cause, en fait. Qu'il soit.
Après, moi, je dis pas qu'ils vont finir forcément top 3, parce qu'après, tu peux top 3 comme toi. Tu peux bien travailler, faire un beau parcours en Ligue des Champions et finir 5e ou 6e. C'est pas pour ça que je veux dire que Lens a raté sa saison. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation pour Lens, et c'est aussi pour ça que tu ne peux pas les comparer à Marseille. Tu peux pas vraiment comparer.
Je compare la réussite entrepreneuriale.
Ah oui, ok. Sur le fond, bien sûr. Avoir un actionnaire qui s'y connaît, qui choisit les bonnes personnes et des résultats et un club qui a des valeurs qui sont représentées par leurs joueurs. Ça, c'est ce qu'on essaie tous de faire jusqu'en quatrième division de district. Mais le truc, c'est que Lens et Marseille, c'est quand même deux environnements différents. T'as pas des articles sur Lens, t'as pas des émissions sur Lens sur RMC, dix fois par mois ou, qu'est-ce que je raconte, dix fois par mois, dix fois par semaine, comme non, tu l'as sur Marseille.
Ok, d'accord, mais ça n'empêche pas de bien travailler non plus. Enfin, tu vois,
oui,
je trouve que,
on va
faire un passage
au Marseille,
mais l'environnement est utilisé trop souvent, c'est une excuse aisé pour expliquer les défaillances de gouvernance, mais surtout faut pas croire que Lens en fait c'est un long fleuve tranquille, c'est-à-dire qu'il y a quand même une énorme ferveur. Toi Kevin,
tu y
es régulièrement allé, moi je suis originaire,
c'était le 87e match d'affilée à guichet fermé à Bollard hier.
Moi je suis originaire de Saint-Quentin dans l'Aisne, donc c'est le club de Ligue 1le plus proche géographiquement. C'est peut-être le Bollard, c'est peut-être le stade de Ligue 1 où je suis le plus fréquemment allé. Je vais même tirer des pénalties à la mi-temps, change Crédit Agricole.
Wanadou? Ah ouais, non.
Change Crédit Agricole, ouais, absolument. D'un Lens-Nice.
C'était pénalty ou on partait du milieu du
non,
terrain?
Non, tirer des pénalties. Il y avait un gardien et tu sais, il y avait des trous en fait sur les côtés.
T'as marqué?
Ouais, j'ai marqué mes deux pénalties.
Formidable, avec l'ovation du stade.
Ouais, c'est souvent parti à la buvette, mais ouais.
Reynald, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour les supporters lensois? De s'emballer, de se prendre pour d'autres, au vu des récents succès. Ce serait une saison réussie, acceptable pour vous?
Bah écoute, les supporters, après, c'est malheureusement, je pense que tous les supporters, quand t'es supporter, tu rêves de reproduire peut-être mieux que la saison d'avant, ce qui sera difficile. Après, on peut pas leur en vouloir de s'enflammer. C'est à Lens, c'est quand même le moteur numéro un, c'est le foot. Donc, tu peux pas leur en vouloir, mais franchement, en toute honnêteté, si tu fais top 5 et que tu fais un petit parcours à la Brest en Ligue des Champions, mais je pense que tout le monde y sera hyper content, quoi.
Ça vous parle, les gars?
Ah, mais moi ça me parle complètement. Mais je pense que Lens a les qualités dans le management pour encore dépasser les attentes et boxer au-dessus de sa catégorie. Surtout que je ne vois pas énormément de concurrents se renforcer significativement, se renforcer de façon pertinente. Moi, je pense que Lens sera encore à la bataille.
Et puisque tu parles de ça, est-ce qu'il y a encore des trous à combler dans l'effectif?
Je pense que défense centrale. D' ailleurs, ils recherchent.
Va mettre un petit peu de temps à revenir de sa grave blessure. Baïdou est sur le flanc.
Baïdou est sur le flanc, défense centrale. Si tu joues à 3, le petit Antonio est vraiment prometteur. Et pareil, il y a Seignan aussi qui est très prometteur au sein de la formation. Mais ils étaient sur Aubert, un défenseur central de Cagliari. Ça m'étonnerait pas en fait qu'ils cherchent encore un défenseur central de qualité.
Le jeune Gagnou a été monstrueux hier.
Exceptionnel.
Et peut-être qu'il va.
Ah, lui, c'est une vraie recrue. Lui, sa prolongation, c'est une vraie, vraie, vraie recrue.
Ouais, très, très belle prolongation. Parce que souvent, on dit que les meilleures contratations sont celles qui permettent d'avoir un joueur qui vient de l'extérieur. Mais des fois, les renouvellements, c'est plus important que les
Je pense d'ailleurs que la vente de Sangaré a permis la prolongation de Gagnou de refuser. Parce que je crois qu'il y avait une offre de Milan à quasiment à 150 millions d'euros. Non, il me surprend de match en match. Il est exceptionnel.
Il a été exceptionnel. Merci beaucoup, Reynald, d'être passé par Génération After. Une bonne saison du côté du Racing Club de Lens.
Le groupe Auchan détient bien une partie de Boulanger.
Tout à fait.
Tu avais à moitié raison. À combien de pourcents? On va voir. À combien de pourcents t'avais raison?
Non, là, fond. Non, mais je te le dirai à la pub.
Bon. sur le WhatsApp de RMC, Alicia nous rappelle que Eli Wahi était un panic buy de dernière minute.
C'est
à l'époque. Eli Wahi, à l'époque, pour la qualification en Ligue des Champions.
Mais moi, c'est pas Wahi qui m'a
fait Lens après avoir été très
sur
demandé.
Sur le cas Eli Wahi, c'est même pas Lens, en fait, c'est Marseille.
Mais qu'il a pas trop mal vendu non plus.
Ça marche pas à Lens, tu l'achètes à Marseille.
Bah non, mais en fait, si tu veux, Eli Wahi, moi, je peux comprendre, dans la mesure où tu sais que t'auras toujours une porte de sortie. Nampalis Mendy, ça m'a plus choqué après Lens.
Je suis pas tout à fait d'accord, parce que, Eli Wahi, sur la foi d'une saison certes exceptionnelle avec Montpellier.
Ouais, mais tu sais que tu vas avoir des clients derrière.
On parlait de Chelsea, on parlait d'Arsenal, il a fini à Lens, ça a pas marché.
Ouais, mais tu sais
Marseille y est allé, moi, je suis un peu comme Kevin, ça m'avait
surpris. Simon, tu sais que tu vas avoir des clients. D'ailleurs, il y a eu des clients. Il y a toujours des clients, d'ailleurs.
Il y a toujours des clients. Voilà. Et puis, je fais un salut amical à Michel sur le WhatsApp de RMC qui dit c'est quand même mieux quand Simon se tait. Alors, et voilà. Il faut jouer avec le bouton du volume, mon cher Michel. Il va falloir patienter jusqu'à 22h avant que je passe la balle.
Hey, c'est un jingle, ça. Paul Vexio, c'est un jingle. Ah, voilà. Je le veux en retour de pub.
On embrasse Michel et on lui souhaite une bonne émission.
25h40. Il passe une bonne journée, Michel.
Oui, Michel. Ouais. Bon, écoute, voilà, on peut pas faire à tout le monde. C'est le principe de ce métier. On l'embrasse.
Il y aura toujours quelqu'un pour acheter.
20h41, Kevin Diaz, David Guzman et vous, les auditrices, les auditeurs qui supportent encore à peu près ma voix. On est ensemble jusqu'à 22h. Dans un instant, on va se pencher sur le Paris Saint-Germain. Luis Enrique a perdu, mais Luis Enrique est tout de même satisfait. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Simon Dutin.
Entouré ce soir de Kevin Diaz et David Guzman, on est ensemble en direct jusqu'à 22h, n'en déplaise à Michel, notre fidèle auditeur, à 4 jours de la reprise de la Ligue 1. Ça commencera par l'affiche entre l'OM et Strasbourg au Vélodrome, vendredi 20h45, vous n'en manquerez pas une miette évidemment sur notre antenne. On se projette évidemment vers la reprise du championnat, éclairé par ce trophée des champions, la victoire du Racing Club de Lens hier face au PSG. Depuis 2021 et sa défaite face à Lille, Paris avait remporté toutes les éditions du trophée des champions. La défaite d'hier, c'est la première de Paris version QSI en tant que champion de France lors du trophée des champions. Alors bon, il y a eu plusieurs occasions parisiennes, il y a eu la barre pour Doué, il y a eu beaucoup d'arrêts de Risser, la supériorité numérique du PSG durant plus de 45 minutes, Dembélé, Nuno Mendes, Fabian Ruiz qui sont entrés en jeu, mais Paris a tout de même perdu sans réussir à marquer un but. Luis Enrique, après la rencontre, satisfait malgré tout.
Finaliser les actions qu'on a eues en attaque. Pour moi, et à mon avis, le rythme et les situations de jeu ont été très positives. Je suis très content de ce que j'ai vu pendant tous les matchs, spécialement le premier mi-temps. Je pense qu'on a contrôlé les matchs. Et si je me rappelle ce que ça s'est passé les dernières années, je pense que c'est l'année que Lens a créé des moines. Je suis content pas de les résultats, évidemment, mais je pense qu'on a mérité des plus. Mais je dois féliciter Lens, ils sont gagnés, ils ont joué très bien avec l'intensité habituelle. Mais je me répète, j'aime bien ce que j'ai vu et de la manière que l'équipe a joué.
Satisfait du contenu, donc malgré la défaite, on a suffisamment souligné le côté carnassier hein, qu'il a réussi à inculquer à ses joueurs. Est-ce que vous partagez cet avis ? Il y a de quoi être satisfait de la prestation parisienne hier, malgré la défaite ?
Moi, en tout cas, je suis pas inquiet pour le Paris Saint-Germain.
Non, c'est pas.
Ça, c'est une certitude. Maintenant, le Paris Saint-Germain, des fois en Ligue 1, même en Coupe d'Europe, mais même en Ligue 1, surtout en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, c'est là où ils font entre guillemets un peu tourner. C'est ce qui était le cas hier. Et bah, des fois, ils sont en difficulté. Et ils sont souvent en difficulté dans les mêmes stades, d'ailleurs. Ils sont souvent en difficulté à Lens, notamment. À un moment, ils étaient aussi en difficulté, souvent à Rennes. C'est des équipes qui réussissaient bien contre le PSG. Il y a Lorient aussi, qui, historiquement, arrive à bien embêter le PSG. Mais c'est vrai que Lens, c'est une, depuis Francaise, souvent le PSG, je me rappelle d'un, je crois que c'était un 2 ou un 2-0, à l'époque de Openda, je crois, en première ou deuxième journée de championnat où le PSG s'était incliné à.
C'était pas après la reprise après la Coupe du Monde au Qatar, tu te souviens pas? C'est pas là?
Peut-être, enfin. Je crois que c'était en été. Je crois que c'était okay. En été, je suis quasiment sûr, fin août. Mais bon, bref, en tout cas, à Bollaert, c'est une ambiance où il y a beaucoup de ferveur. C'est souvent des équipes qui mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Et souvent, le Paris Saint-Germain, aussi à Monaco, où il y a moins d'ambiance, mais où il y a quand même de la qualité. Donc le Paris Saint-Germain, quand même de Luis Enrique et de l'air qatari a quand même été des fois bousculé par certaines équipes en Ligue 1 et ce club et ce stade en fait partie. Et hier bah ils ont joué contre une belle équipe, une équipe qui a fini deuxième, qui s'est bien renforcée, qui va être en Ligue des Champions. Et donc moi j'ai vu un Paris Saint-Germain quand même qui malgré ça a eu la majorité de la possession de balle, a eu la majorité des occasions, aurait dû je pense avec un tout petit peu plus de réussite égaliser. Il y a Nuno Mendes. Maintenant le seul truc où là pour moi ils tirent un peu contre leur camp, c'est qu'ils ont quand même joué à 10. pendant un bon moment.
C'est ce que j'allais te dire.
Ils ont fait 11 contre 10.
Il y a une grosse première période parisienne, on peut en convenir, c'est un peu un miracle si Lens mène à la pause, mais bon, tu te dis, ils vont appuyer à 11 contre 10 après l'exclusion de Kylian Antonio. Ouais, vous n'avez pas été déçu par la seconde période parisienne.
Après, il y a un ajustement tactique.
Les Lensois, ils ont bien défendu.
Les Lensois ont quasiment été meilleurs à 10 contre 11.
Il y a un ajustement tactique en 5-3-1 avec le remplacement de Divanovic par Aguilar. Non, Aguilar, mais moi, je vais revenir en fait sur la déclat de Luis Enrique à l'aune de sa préparation. Moi, je comprends complètement qu'il soit hyper satisfait. Il sait que la plupart de ses joueurs sont venus bien après les Lensois, que les Lensois ont une préparation bien plus consistante. Et je l'ai trouvé bien plus en danger lors des dernières sorties à Bollaert qu'hier soir. Hier soir, les 30 premières minutes, c'est un taureau. C'est-à-dire que vraiment, Lens a commencé à jouer long parce qu'il tirait la langue. Paris, dans le pressing, dans le contre-pressing, était hyper impressionnant. Même en deuxième période où c'était un peu plus compliqué, t'as quand même 10-15 minutes à la fin, notamment après l'entrée de Dembélé, où Paris a réussi à se créer énormément d'occasions. Moi, je trouve que Luis Enrique, il a toutes les raisons d'être rassuré par ce qu'il a vu hier, dans la créativité.
Il n'a même pas besoin d'être rassuré.
Non, mais c'était un vrai test. Il le disait d'ailleurs avant le match. Il accordait énormément de respect à cette équipe du RC Lens. Et je pense qu'il a vraiment été satisfait du contenu et qu'il dit pas ça, en fait, pour être à contre-courant. D'ailleurs, même sur le plan des individualités, il n'y a pas énormément d'individualités parisiennes, à part peut-être Lucas Digne, que moi, j'ai trouvé un peu distrait, pas forcément à son meilleur niveau.
Disons que ça fait beaucoup après la demi-finale de Coupe du Monde.
Ouais, mais lui, peut-être à Cliouche, que j'ai trouvé très bon dans les déplacements, mais manquant de puissance, manquant d'incisivité offensivement. Même dans les individualités, j'ai trouvé Doué bon. J'ai trouvé le milieu de terrain très correct.
Beraldo, ça reste un sparring partner quand même.
Bah, tu vois, en fait, si tu veux.
C'est dur.
Non, mais tu vois que.
Bah, c'est un sparring partner d'entraînement, c'est un genre de rotation.
Tu vois que Beraldo, en 6, dès que. Déjà, d'une, ça replace Vitinha un peu plus haut, là où je l'aime un peu moins. Mais tu vois que contre un milieu consistant, et pourtant, j'ai pas été épaté par la prestation de Cuisance, même s'il est.
Cuisance.
Moi, je l'ai monté en puissance, mais.
Cuisance, c'est pas un joueur pour courir après la balle.
Il est monté en puissance. Mais j'ai trouvé qu'il avait une première demi-heure un peu hésitante.
T'allais dire, il est monté en cuisance.
Excellent. Oh, c'est pas mal.
Excellent, c'est validé.
Pas mal. J'allais pas le dire, mais tu voulais le placer, on est d'accord. Mais voilà, non.
Elle m'est venue comme ça.
Mais d'un point de vue individuel, je trouve qu'il y a aussi des satisfactions. Je comprends sa sortie.
On va poser la question à Jonathan, supporter parisien qui a fait 32-16. Salut Jonathan.
Bonsoir monsieur.
Salut Jonathan.
Salut Jonathan.
D'accord avec les copains en plateau et Luis Enrique après la rencontre. Toi, t'es satisfait malgré la défaite?
Forcément, t'as toujours un côté où t'es un peu frustré parce que bon, ça reste quand même un titre et donc, quand tu le ramènes pas à la maison, t'es quand même un peu déçu. Néanmoins, je suis totalement d'accord avec la personne qui vient de parler juste précédemment là. Donc, je partage totalement son analyse et c'est vrai que quand tu vois Enrique, le fait de dire que j'ai trouvé que mon équipe a dégagé un meilleur jeu que ce que je pensais et je trouve que véritablement, avec deux, trois jours pour certains, le match a été quand même plutôt bon du PSG. Et Lens a eu deux très bonnes minutes au coup d'envoi. Et je pense que c'est vrai qu'après un mi-temps, c'était quand même la machine où PSG avait un jeu assez huilé. Excusez-moi pour derrière. Avait un jeu assez huilé en termes de qualité de jeu. Un but qui a été un peu contre le cours du jeu. Et derrière, ils ont mis le bus, quoi. Donc, ils ont joué avec leur arme. Mais je trouve que Paris quand même a fait un très bon jeu et aurait mérité clairement beaucoup mieux que
le but. C'est quand même un concours de circonstances. T'as une Brandao contrôle du dos, une frappe écrasée de Dudol d'ailleurs.
Bon, enfin, Simon, il fait un travail exceptionnel sur le but. Une Brandao
exceptionnel. Enfin, il sait même pas où le ballon est. Il rebondit sur son dos.
Il se bat.
Si se bat, c'est un travail exceptionnel. Il est quand même très chanceux sur le but, Simon. C'est pas un contrôle.
Il fait le boulot pour lequel il était censé.
Oui, il y a quand même attends, sur le but, Simon, il y a quand même
qu'il y ait une frappe ratée après de Udol qui se transforme en centre avec un Thauvin, eh ben, qui a senti le coup, qui y va et qui a le mérite d'y croire.
Exactement.
Mais si tu m'expliques que parce qu'il a touché le ballon de l'épaule, Sima a de la fluide. Chance sur le but, moi je trouve qu'il allait se battre contre au mastic, tout seul, contre la défense centrale. Bon, je trouve qu'il a fait un travail remarquable sur le but, quoi. Pardon, puis, Jonathan.
Non, non, mais je t'en prie, mais je suis assez d'accord. Et puis quand tu regardes aussi sur l'action du but, tu regardes Pacho, il se retrouve sur une jambe, il fait l'effort de remonter, mais c'est presque un peu trop tard, il est un peu dépassé. Enfin, il faut dire la vérité, ils ont eu beaucoup de réussite sur le but. Donc bon, ils ont marqué le but. Thauvin qui fait l'effort derrière, bravo à lui, parce que franchement, bon bah tu sens qu'il s'est arraché et il gagne de la réussite, le ballon arrive sur lui. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de réussite. Et quand tu vois l'image à l'image du jeu de Lens hier, ils sont tout misés sur le fait de d'être en bloc bas, la défense.
Non, non, mais attends, hier autant le PSG fait pas un mauvais match, et c'est pas pour ça que c'est pas parce qu'ils ont perdu qu'on peut dire qu'ils ont raté leur soirée. Mais par contre, Lens, ils ont réussi complètement leur match. Hein. Tu joues.
Topmoller a vraiment réussi son match.
Non, mais ils ont fait un match énorme, les Lensois. Tu vas pas comparer quand même l'effectif des uns et les budgets des uns et des autres. Mais, donc, cueillez moins de qualité du côté de Lens, c'est tout à fait logique. Que les gars jouent sur la moindre occasion qui marque et derrière qui mettent comme tu dis le bus, moi je crois pas qu'ils restent en bloc médian bas et surtout à 10 contre 11 qui défendent comme des acharnés parce qu'ils ont certes concédé 2-3 occasions mais je pense qu'ils ont quand même bloqué énormément de tentatives avec une énergie monstrueuse et ils auraient même pu mettre un deuxième but si cet arbitre Monsieur Pignard il est encore en Ligue 1 mais alors par contre Benoît Millot il est plus en Ligue 1 quoi. Même Angoula il est plus en Ligue 1. Alors lui il est en Ligue 1. Non mais le mec, mais comment il peut siffler dans cette faute au poteau de corner sans attendre de voir ce qui se passe avec un centre et un but, parce que si vous perdez 2-0 c'est pareil hein, parce que ce but normalement il compte. Donc je vais dire que bien sûr que le PSG n'a pas raté son match, mais Lens a fait un match monstrueux.
On a Mathieu sur le WhatsApp RMC qui nous dit: sinon Paris a impressionné les supporters lensois dont je fais partie. Niveau technique, précision, athlétique et même au niveau du respect. Bravo Monsieur Enrique, nous dit Mathieu. Donc
j'ai beaucoup aimé Luis Enrique qui est resté, contrairement à certains entraîneurs ou à certains joueurs, hein, même dont peut-être certains Parisiens, j'ai pas tous vu, mais qui est resté pour applaudir. Je pense pas que c'était fin ou que c'était pour faire semblant. Non, il est resté, il a gagné beaucoup. Bah, il est capable d'être digne aussi le soir où il ne gagne pas, même si c'est pas le trophée de l'année. Je l'ai dit, hein, ça restait un trophée à prendre. Et j'aime vraiment beaucoup l'attitude de Luis Enrique en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain.
Il est respecté avant le match, je pense qu'il les respecte encore plus après. Tactiquement, c'est vrai que le changement en 5-3-1, j'ai même, moi, beaucoup aimé les changements de Topmoller. Je trouve que c'était des changements très intéressants. Fofana a fait une super rentrée, Skouras a fait une super rentrée aussi. Vraiment, sur l'action, en fait, du but refusé.
Avec la grinta.
Boulatovic, c'est
Boulatovic.
Boulatovic, excellent.
Boulatovic, vraiment, on a déjà vu.
Boulatovic, en plus,
saison dernière.
Comme ça, un peu. Agaçant pour pas dire autre chose, mais comme ça qu'il va
le
chercher
côté
des slam,
la quoi, technique, ouais. La malice. Ouais. Quoi,
si c'est Pac-Man, il a mordu les mollets d'absolument tout le monde, un joueur hyper vertical. Moi, je suis sorti de la rencontre. Vraiment, c'était les premières images qu'on voyait de la Ligue 1. Je suis vraiment sorti de la rencontre. Je me suis régalé.
Bon gardien aussi, hein.
Vivement que ça. Romain Risser.
Vraiment. Ah, il a fait un ça, on connaît, mais je veux dire qu'il fait, un bon match. Alors, 2-3 fois, il relâche, mais il a l'air de maîtriser son geste en mode. J'essaie pas de la capter.
Serge, il a fait 2-3 manchettes.
2-3 manchettes, mais quand même.
Complètement. Un bel arrêt réflexe à son gardien de hand. Il a pas eu de parade.
Sur Mendes.
Impossible à réaliser, mais il a
capté les ballons quand tu venais les capter. À un moment, t'as des mêlées qui rôdent, donc il faut le capter. Par contre, quand il avait un peu plus de place, il a pas pris de risque. Il a fait une espèce de manchette pour la récupérer en deux temps, un très bon gardien.
Moi, ce que j'aime beaucoup chez Risser, c'est qu'il a su rebondir après un passage un peu compliqué l'année dernière. Il a fini la fin de saison de façon très convaincante. Et son statut de troisième gardien à la Coupe du Monde, à mon avis, lui a énormément donné confiance. Et là, je l'ai trouvé même avec une autre stature.
Ah, bah, et tu reviens évidemment
même
en tant que troisième gardien avec une expérience, une confiance. Je remercie Jonathan d'être passé par Génération After. À bientôt sur l'antenne de RMC. Alors je vais continuer à vous titiller, non sans avoir rappelé que c'est une info RMC Sport, c'est tombé ce soir. Ibrahim Baye et Liverpool sont tombés d'accord sur un contrat. Le jeune ailier sénégalais du Paris Saint-Germain, il n'était pas sur la feuille hier. Liverpool et Mbaye sont d'accord. Reste à trouver un terrain d'entente pour les Reds avec le PSG. Les Reds qui pourraient, bon, on ne sait jamais, faire une offre groupée pour un Bradley Barcola. Lui aussi, on l'a vu en tribune. Bon,
si je suis
visiblement,
malin,
on le met au frigo tant que
c'est le financier qui passe. Si je suis malin, si je fais un paquet, j'essaie d'augmenter un peu la valeur de Mbaye parce qu'il est à zéro, tu sais, dans les livres comptables et donc ça ferait une plus-value comptable encore plus significative.
Pour le faire play financier et les règles comme ça pour lui.
Exactement. Donc en fait, si je veux faire un paquet, je en valoriserais un peu Mbaye.
Alors hier, Louis Enrique n'a pas pu compter sur Mbaye ni Barcola. Un petit mot sur ceux qui ont joué, ceux qui étaient devant, Akliouz, Doué, Gvara pour débuter.
Doué, moi j'ai trouvé bon. Il a joué tout le match, il a même eu des crampes à la fin. C'est quand même une sacrée machine, hein, parce qu'il a des appuis, même pour un gars qui a quand même pas eu une préparation optimale, même s'il est très jeune. Donc bon, ça va le faire, mais ouais, j'ai beaucoup aimé Doué. Bon, Gvara, on voit qu'il est pas encore prêt. Bon, il a été décisif face à Aston Villa. Donc là, il a été un peu moins en vue, mais à Cliouz, un peu tendre après un joueur de système, un joueur qui est assez discipliné, qui va suivre les conseils du coach et qui va progresser dans cette rotation, mais c'est vrai que sinon j'ai trouvé quand même un bon Hakimi, un joueur encore une fois qui, et les retours aussi de Nuno Mendes et d'Hakimi, en fait tu vois que le PSG, c'est monstrueux d'avoir ces deux joueurs là, parce que deux fois t'as Nuno Mendes qui revient à 2000. D'ailleurs je pour en parler sur Nuno Mendes et sur Antonio, je savais pas que quand tu prenais un rouge tu pouvais pas assister à la cérémonie. Je trouve ça très dur.
Je trouve ça
c'est nul. N'importe quoi.
Ça fait partie de ces règles, en fait, si tu veux, comme le carton jaune quand tu enlèves ton maillot, en fait, célébration qui sont un peu.
Incroyable. Le petit jeune, il était comme ça sur le côté.
Je trouve ça un peu ridicule.
Kylian Antonio en bas des escaliers. Voilà.
Ouais. T'as fait un excellent début de match.
Un peu dur. Bon, même si il y a eu un petit excès d'engagement.
Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'appréciation de Doué. Même s'il y a eu du déchet, je l'ai trouvé inspiré. Je l'ai trouvé hyper provocant. J'ai adoré la passe quasiment décisive pour Fabian Ruiz, qui a été donc dont le but a été annulé pour un hors-jeu très très fin, mais je l'ai trouvé beaucoup plus inspiré.
Très bonne montée pour mettre hors-jeu de Aguilar. On met pas souvent en avant les défenseurs qui montent au bon moment, mais c'est un geste technique qui est très beau.
Puis il a failli donner une belle balle à Dembélé aussi après un petit
slalom
aussi.
Dembélé pas ouf la rentrée.
Ouais,
mais bon, pas encore prêt.
Il a beaucoup tenté, beaucoup frappé.
On va avoir une question de prolongation, si je pense, Dembélé, cette saison. Ça sera intéressant à suivre.
Pense.
Ou de non-prolongation.
Bon. Là, ça va être the question.
Écoutez, affaire à suivre, mais vous n'êtes pas inquiet pour le PSG qui a tout de même laissé filer le premier trophée de la saison. Kevin Diaz, David Guzman, qui vous accompagne durant une heure encore. Dans un instant, on va parler de l'Olympique Lyonnais, qui aimerait bien retrouver la Ligue des Champions. Pour ça, il va falloir éliminer Fenerbahçe. On en parle dans un instant. Puis je fais un salut amical à Michel sur le WhatsApp de RMC, qui dit que c'est quand même mieux quand Simon se tait. Alors, et voilà. Il faut jouer avec le bouton du volume, mon cher Michel. Il va falloir patienter jusqu'à 22h avant que je passe la balle.
C'est un jingle, ça. Paul Vexio, c'est un jingle. Ah, voilà. Exceptionnel, Paul Vexio. Bravo.
Bravo, Paul.
Génération After.